De nouveau, bonsoir Maud Le Pladec.
Bonsoir.
Nous nous retrouvons pour la suite de votre nuit rêvée sur France Culture. Maud Le Pladec, vous êtes chorégraphe, vous dirigez le Centre chorégraphique d'Orléans et vous êtes danseuse toujours. Comment devient-on danseuse? Comment prend forme cette vocation chez une jeune fille dans les années 80 en Bretagne? Ou peut-être même avant donc.
Le plus simplement du monde, mes parents m'ont inscrite à la danse quand j'avais 5 ans et demi ou 6 ans. Donc j'ai commencé dans une association de danse autour de la ville, dans une petite ville qui s'appelait Trégueux. Donc c'est une petite commune autour de Saint-Brieuc. J'ai tout de suite aimé ça. J'ai tout de suite voulu en faire beaucoup. J'ai tout de suite, mais je peux même pas expliquer en fait comment ça s'est fait. Je pense que la danse m'a choisi plus que je ne l'ai choisi finalement. Et à l'âge de 11 ans, je disais déjà à mes parents que je voulais être danseuse ou être professeure de danse. J'avais pas de grandes ambitions à l'époque. Je voulais juste faire comme mon professeur, comme ma professeure, je voulais juste enseigner la danse. D'ailleurs, c'est plutôt vers ça que je me suis dirigée au départ, puisque j'ai passé un diplôme de danse pour être professeure de danse jazz, voilà. Et puis finalement, plus je progressais dans mon parcours, et plus je me disais, mais c'est pas tant l'enseignement qui me parle que le fait de pratiquer la danse, le fait de danser, voilà. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à faire une formation auprès de Mathilde Monnier à Montpellier, et puis à être prise pour faire Dance Web à Vienne, et puis à rencontrer Loïc Touzé, et puis à rencontrer une autre chorégraphe, et ainsi de suite. Et j'en suis arrivée là aujourd'hui.
Et où et comment découvre-t-on la danse avec un grand D ?
La danse avec un grand D, elle se découvre. Il y a plusieurs accès et c'est la raison pour laquelle, en tant que directrice de ces scènes, je suis fortement impliquée, en tout cas dans ces façons de transmettre la culture chorégraphique et pour tous. Pour moi, en fait, ça s'est fait au travers d'une expérience de spectacle, de création, dans ma classe de seconde, avec mon prof de français, quand Patrick Ledoiré, qui est un chorégraphe breton, est venu avec ma classe de seconde préparer une pièce qu'on a ensuite présentée sur le grand plateau du théâtre La Passerelle, qui est la scène nationale de Saint-Brieuc. Donc c'est la danse avec un grand D, puisque c'était la première fois que je montais sur un plateau, c'était la première fois que j'expérimentais un processus de création avec des danseurs professionnels, et j'ai tout de suite su que c'est ça que je voulais faire. La deuxième rencontre de la danse avec un grand D, c'est quand j'ai vu Mathilde Monnier jouer dans une pièce avec François Véret et Jean-Pierre Drouet, et que là j'ai eu encore une fois un des premiers chocs chorégraphiques, et que je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et la troisième rencontre, c'est effectivement participer à une formation de danseurs professionnels et se dire voilà, j'ai accès, on y est, et j'espère que ce chemin va se poursuivre le plus longtemps possible.
Qu'est-ce que c'est que la danse quand on est enfant? Les tutus, les pointes, casse-noisette, George John dans le boléro pour Béjart dans un film de Claude Lelouch?
Ah non, pas du tout. Moi, c'était Michael Jackson, Madonna, plus tard toutes les comédies musicales américaines, Bob Fosse, All That Jazz, voilà, Bob Fosse, beaucoup en fait. J'ai vraiment pratiqué la danse jazz de manière très très intensive, avec des puristes de la danse jazz. Donc j'ai acquis une technique aussi, hein, une musicalité que je crois employer encore, enfin aujourd'hui dans mon travail. Après, je me suis défait évidemment de ces codes de la danse jazz, et la danse contemporaine m'a évidemment aidé à déconstruire ça. J'ai pratiqué aussi la danse classique, mais c'était pas mon imaginaire, c'était pas mon univers, c'était pas ce dans quoi je me projetais. Voilà. Et puis la danse contemporaine, c'est tellement d'écriture singulière, c'est de rencontres, de styles, même si on n'emploie plus ce terme-là, différence. Il y a une telle richesse que j'ai pas l'impression d'appartenir à une famille plus qu'à une autre. Voilà. Et ça, la danse contemporaine. regroupe aussi beaucoup de techniques. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de danse contact, c'est une forme de technique. J'ai aussi traversé le répertoire Cunningham, c'est une forme de technique. J'ai aussi fait beaucoup de flying low, c'est une forme de technique. Donc, la danse contemporaine développe ces techniques aussi de danse, voilà, qui structurent un corps. Donc, voilà, on parlait tout à l'heure de déconstruction et de construction. J'ai déconstruit la danse jazz pour construire un corps ou une technique de danseuse contemporaine. Voilà, je suis faite de plusieurs corps de danse.
Danser, c'est se mettre à distance de son corps ?
Non, je pense qu'au contraire, enfin, c'est un double mouvement. C'est d'abord rentrer, être au plus profond de soi-même pour effectivement pouvoir ensuite objectiver, se mettre à distance, être son propre outil, être aussi au service du projet, de la projection à la fois artistique et mentale de l'autre. Voilà, donc... On a, mais pour pouvoir faire ça, faut. Moi, je crois que vraiment, plus je danse et je continue de danser aujourd'hui, et plus je me rencontre en fait. Et se rencontrer, c'est aussi pouvoir se mettre à distance. Il y a des distances saines. Enfin, dans les relations, on a des distances saines. Il faut avoir un rapport sain avec soi-même. Et pour ça, il faut se mettre à distance de soi. Il faut ressentir et analyser, ressentir et comprendre. Ressentir et communiquer, mais les deux, enfin, on ne peut pas communiquer si on ne ressent pas, voilà.
Et prendre de la distance avec le fait d'être une femme.
En tout cas, être femme et en avoir conscience, être femme et peut-être se définir au sens le plus subjectif du terme, se définir femme, voilà. Donc c'est la même chose, c'est se ressentir femme, être voilà, moi je ce que j'aime beaucoup dans la question du genre, c'est que, enfin, en tout cas dans le féminisme, c'est qu'effectivement il n'y a pas le féminisme, c'est la question de l'égalité entre les sexes, voilà, entre les genres, entre les sexes plutôt. Mais par contre, je célèbre si la question des valeurs, on doit avoir accès aux mêmes droits et aux mêmes valeurs, mais par contre, je célèbre la différence des sexes. Je suis pas un homme, mais par contre, je peux me sentir homme. Et je travaille, moi, c'est comme ça que je l'exprime beaucoup, avec la polarité masculine et la polarité féminine. C'est ce que je ressens que j'ai dirigé un lieu. Parfois, je me sens travailler cette polarité masculine. Mais pourquoi? Mais parce que ça vient de l'extérieur. C'est la place à laquelle on nous met. Mais je peux prendre cette place de manière volontaire. Et parfois, quand je suis sur un plateau, je peux travailler aussi cette polarité masculine ou cette polarité féminine. Je peux me sentir plus ou moins homme ou femme. Mais je ressens ça et ensuite, effectivement, je prends une distance, je joue avec ça.
Nous écoutons les sœurs Goadec. Quelle place la culture bretonne, la gavotte, les fest-noz, les rythmes et les chants bretons ont joué dans votre éducation? Êtes-vous ou avez-vous été une bretonne bretonnante?
Non, pas du tout en fait. Je suis très très proche de la culture bretonne et je me sens bretonne au plus profond de moi-même. Je retourne, j'ai besoin de retourner régulièrement en Bretagne. J'ai besoin de voir la mer. J'ai besoin de ma famille est là-bas, mon cœur est là-bas. Mais par contre, le premier Fest-Noz auquel j'ai participé, c'était il y a 5 ans et grâce à Boris Charmatz, donc qui n'est absolument pas breton,
à Rennes,
qui, Rennes dans le cadre de Fou de Danse, puisque dans le cadre de Fou de Danse, il y a eu un Fest Days et je savais même pas qu'on appelait le Fest-Noz qui a lieu dans la journée un Fest Days. Donc, j'ai pas été du tout, je dirais, j'ai pas été proche de cette culture bretonne. Mes parents m'ont jamais amené ni au Fest Days, ni au Fest Noz. On n'écoutait pas de musique bretonne. Je ne parle pas breton. Mais par contre, quand j'entends ça, j'ai quelque chose qui vibre en moi, mais profondément. J'ai beaucoup travaillé avec Erwan Keravec, en fait, qui est un musicien, un piper breton. Et je m'aperçois en fait que quand on discute, quand on part en tournée, quand il joue de la cornemuse, ça fait partie de moi, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui vibre, hein, vraiment profondément. Donc voilà, ce folklore, il est là, je l'ai intégré, mais je l'ai pas, je l'ai intégré, vous savez, de manière, c'est ça la culture. C'est présent, c'est dans l'air et ça s'infiltre dans les pores de notre peau, de notre pensée. Et c'est là, c'est présent. Mais je me sens pas, je me sens bretonne presque par détour, par défaut.
Mais les sœurs Goadec, par exemple, vous pourriez imaginer construire quelque chose sur des chants de ce genre ?
Non. Non. Pas parce que... Non, je pense que quand même, c'est Maud Le Pladec qui fait une pièce sur les chants des sœurs Goadec, c'est ça ?
Ça rime. Trop.
Mais c'est un peu caricatural quand même. Je me vois pas trop.
Nous avons écouté tout à l'heure une émission sur les nouvelles sorcières américaines. Est-ce que votre intérêt pour ce néo-paganisme doit quelque chose à vos origines bretonnes ?
Oh, je pense, oui. Je pense que la Bretagne est une terre tellurique je travaille aussi, je dis ça comme ça, mais je travaille beaucoup avec les pierres. Voilà, depuis toute petite, je récolte des pierres, des cailloux. Donc oui, je pense que on connaît la Bretagne avec tous les mythes qui l'accompagnent et qui ne sont pas seulement des mythes. Hein, il y a vraiment une culture aussi. Il y a beaucoup de sorcières et beaucoup de sorciers en Bretagne. Il y a beaucoup de rebouteux. Il y a beaucoup. Ça fait vraiment partie les façons de soigner sont très proches de la nature puisqu'il s'agit de ça en fait. Il s'agit aussi d'utiliser l'humain dans ses plus profondes et larges dimensions, à la fois spirituelles, physiologiques, physiques, énergétiques, et aussi comment l'humain travaille et dialogue avec la nature, comment on utilise les pierres, l'eau, le feu. Voilà, donc oui, je pense que d'être né en Bretagne me fait comprendre le néopaganisme. Oui.
Mais quel rapport entre la danse et la sorcellerie, les pratiques magiques ?
Pour moi, je vois, il y a un lien comme ça. Si je faisais un lien de manière un peu rapide, c'est la question du rituel et la question des pratiques. Voilà. La danse, pour moi, est un rituel aussi. J'ai ritualisé beaucoup ma vie autour de la danse. Et ritualiser, ça veut dire je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner, je pratique, je passe par la pratique, je vais au studio ou je vais à la salle de sport ou je passe par une pratique qui est une pratique physique, voilà. Puis ensuite on a la pratique du studio, enfin donc en fait on a beaucoup ritualisé. Et donc moi j'ai beaucoup ritualisé autour de la danse, c'est-à-dire que la danse a pris une telle place dans ma vie que toute ma vie finalement j'ai défini des modalités en fait des modalités de vie qui permettaient que la danse rentre dans mon quotidien. Et à l'intérieur de ces activités là de ces pratiques là il y a d'autres formes de rituels. Donc l'échauffement est un rituel, écrire et la danse est un autre rituel. Enfin voilà, donc et puis il y a la question de la transe aussi. Moi quand je me souviens enfant quand je dansais, j'avais cette sensation de basculer en fait dans un autre monde. J'avais l'impression que ça me faisait oublier tout. J'avais pas de problème à l'école, j'avais pas de problème avec mes amis en particulier, mais d'un seul coup quand j'allais à la danse, j'oubliais tout. J'oubliais absolument tout. Et c'était un espace-temps dans ma vie d'enfant. Pourtant, j'étais jeune. C'est assez fou quand même de ressentir cette chose-là qu'on peut. Moi, j'ai jamais pris de drogue, mais j'ai l'impression que c'est ça. C'est comme un trip, quoi. C'est comme un voyage. C'est comme une transe. Et j'avais cette sensation-là. Donc, et ça, c'est une sensation qui est difficile à décrire et que je retrouve pas ailleurs. Si, que je peux retrouver. Dans l'orgasme peut-être, ou dans le plaisir, un plaisir extrêmement fort comme ça, une sensation à la fois physique et mentale d'un autre qui me donnait accès à une autre forme de réalité. Donc ça rejoint la sorcellerie, on danse, on se met en transe, on écoute de la musique bretonne, la danse bretonne c'est la répétition des pas, jusqu'à ce qu'à un moment on oublie ces pas-là et on passe en fait dans une forme de conscience altérée comme ça qui nous permette d'accéder à d'autres mondes. Pour moi, la danse a à voir avec ça aussi.
Maud Le Pladec, les deux chorégraphes que vous avez choisi de faire figurer dans votre nuit rêvée, Meg Stuart et Alain Buffard, sont tous les deux des explorateurs, des dynamiteurs de codes et de conventions qui ont résolument choisi de travailler le métissage de la danse avec d'autres expressions artistiques. Pourquoi ces deux-là? Et pour commencer, pourquoi Meg Stuart?
Alors, les conversations sont souvent bien faites puisque en gros Meg Stuart parle beaucoup de visions hallucinogènes de la danse. Elle travaille beaucoup avec le chamanisme. Elle utilise même, je pense qu'elle a utilisé les drogues même dans les processus de ses créations. Donc c'est vraiment c'est presque une sorcière pour moi en fait Meg Stuart. Donc c'est la raison pour laquelle je pense assez naturellement penser à elle. C'est pas quelqu'un que j'ai rencontré dans le travail, c'est pas quelqu'un qui influence de manière très directe mon travail de chorégraphe. Je suis plus habitée par le travail de Anne-Theresa de Kersmaker que de Meg Stuart. Si on regarde mes pièces, il y a rien en termes purement artistiques et esthétiques qui pourrait se rapprocher de quelqu'un de comme Meg Stuart. Mais
et en même temps, un de vos spectacles s'intitule Hunted. Est-ce que c'est en référence, en écho au Hunter de Meg Stuart?
Mais non, puisqu'en fait, il a été créé avant Hunter. Donc, mais par contre, c'est Hunted, c'est pourchassé. Et donc, comme il s'agit des sorcières qui ont été pourchassées, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre. Mais en fait, Meg Stuart dans Hunter, elle chasse ses propres démons puisque c'est en fait une sorte de portrait à la fois performatif et chorégraphique. Donc il y a comme ça, comme stalker en fait, chasser peut-être ses fantômes. Donc il y a des choses peut-être qui sont proches, mais c'est comme un concours de circonstances en fait. Ces deux pièces ont été créées de manière très rapprochée, mais elles n'ont aucun lien. Mais par contre, j'ai un peu recherché puisque moi aussi je me suis posé la question. Je me suis dit mais pourquoi Meg Stuart, puisque pourquoi pas Mathilde Monnier, pourquoi pas Boris Chamatz avec lequel je travaille maintenant depuis 10 ans. Non, pourquoi Meg Stuart? Et en fait, je me suis souvenue d'une pièce que j'avais vue au Festival d'Avignon qui m'avait énormément marquée parce que j'ai vu beaucoup de ses pièces, mais qui s'appelle Violette. Et donc, du coup, j'ai fait des petites recherches. Et d'ailleurs, j'ai rapporté ici une phrase que je voudrais citer et qui a à voir finalement avec tout ce dont on parle, la déconstruction, se défaire, chasser ses fantômes, le chamanisme, comment en fait se pratiquer de manière différente, qu'est-ce que c'est que d'être vivant, c'est la question de l'humain en fait, elle pose cette question-là et elle est au centre de son travail, qui on est, comment on se définit, pourquoi on est là, donc il y a une sorte de, elle est toujours très habité par des questions existentielles et c'est la raison pour laquelle je crois que j'aime son travail. Et par exemple autour de à propos de Violette, elle a écrit peler, muer, se défaire de ses possessions, voilà des préparations pour une nouvelle vie. Et elle commence en fait son texte d'introduction autour de la pièce Violette comme ça. Et donc elle dit que dans Violette, ça traite des questions sont posées à propos de l'adaptation, de régénération et du destin. Et ces questions se posent dans un atelier, dans un lieu de travail, dans une hutte de sudation, sans prendre d'emblée conscience du résultat. Donc elle parle beaucoup du processus, elle parle beaucoup aussi de la transformation, de la transe et comment finalement elle développe beaucoup de paysages mentaux en fait. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée. Voilà, un peu de loin, mais quand même qui m'a beaucoup inspirée. Et Violette, et si je parle de cette pièce, et elle fait le lien finalement entre ces sujets-là et ce qui, moi, m'importe dans la danse, parce que j'ai une approche beaucoup plus abstraite, voilà, de la danse. Et Violette est la pièce la plus abstraite de Meg Stuart, et c'est peut-être la raison pour laquelle elle m'a fortement touchée.
Vous avez tenu à ce que Alain Buffard figure dans votre nuit rêvée. Alain Buffard, disparu en 2013, danseur, chorégraphe, on est tenté de dire artiste tout simplement. Comment dire la référence qu'il est, l'influence qu'il a exercée et qu'il exerce toujours sur toute une génération de danseurs et de chorégraphes en France et ailleurs?
C'est un peu comme Max Stuart, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai travaillé, c'est pas quelqu'un qui a influencé directement mon travail est encore une fois encore plus éloigné du travail de Alain Buffard que de Max Stuart, si on veut aller par là. Mais par contre, quand j'avais une vingtaine d'années, dans mes débuts de danseuse professionnelle, j'ai vu beaucoup Alain Buffard était très présent sur la scène chorégraphique française, donc j'ai vu beaucoup de ses pièces et il abordait quand même des sujets importants, notamment des sujets qui avaient à voir avec le sida, donc toute une génération de gens, une génération qui avait plutôt précédé la mienne, mais qui dont finalement les problématiques étaient encore extrêmement présentes et encore aujourd'hui pour une jeune femme de 20 ans qui découvrait l'amour et qui en fait aussi devait se protéger de ses c'était à la fois nouveau et très présent, etc. Et puis effectivement dans le travail de Alain Buffard, il y avait une dimension plastique qui était tellement forte que pour moi à l'époque, on est dans les années fin 90 début 2000, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau et donc j'ai découvert ça avec lui. Et si je cite aussi Alain Buffard, c'est que je pense à une de ses pièces précisément qui est Dispositif 3-1, dans laquelle Laurence Loupe a participé, et c'était aussi quelqu'un qui avait cette capacité dans le cadre d'un spectacle de créer une sorte de mini communauté. Et je me souviens très bien de cette pièce où il était présent, il y avait une danseuse malheureusement dont je ne me rappelle plus le prénom et le nom, et Laurence Loupe. Et dans Dispositif 3-1, il s'agit vraiment de cette communauté de gens et qui fait état aussi. Et puis il y avait beaucoup de distance, d'humour, une position extrêmement critique vis-à-vis de l'art. Et notamment, il y a une scène qui pour moi est phénoménale et emblématique dans ce projet, qui est c'est Laurence Loupe en fait qui a toute une qui a une scène qui autour du White Cube, et elle utilise, c'est une sorte d'autocritique, c'est-à-dire qu'elle est critique de danse, elle se retrouve elle-même danseuse dans la pièce d'Alain Buffard, et elle joue en fait des codes de la critique de la danse, et finalement c'est tout s'annule, c'est-à-dire que tout le sérieux avec lequel Laurence Loupe travaillait à l'époque et aurait travaillé encore aujourd'hui, parce que c'était sérieux pour elle, la critique de danse, d'un seul coup, elle en riait, elle s'en foutait, et c'était à la fois drôle, juste et extrêmement fort, quoi. Voilà.
Nous entendrons Laurence Loupe dire quelque chose qui, je suppose, aura un écho chez vous. Le spectateur n'use pas de la liberté qu'il peut avoir.
C'est vrai que le spectateur n'use pas, parce qu'en fait, les conditions de réception d'un spectacle ne lui permettent pas forcément toujours d'en user. On parlait de rituel, mais on rentre dans une salle de spectacle, on s'assoit, il y a le noir, on est assis, on peut avoir une attitude extrêmement passive en fait, et on peut consommer du spectacle si tant est qu'on ne s'autorise pas finalement à voyager. Donc c'est la raison pour laquelle aussi certains chorégraphes, comme Boris Charmatz aussi, déplacent la danse des plateaux, enfin en tout cas décloisonnent et re-questionnent ce lien entre celui qui regarde et celui qui fait, voilà, entre le spectateur et le performeur. Voilà. Je pense aussi que on ne s'octroie pas en tant que spectateur, et je parle aussi pour moi, hein, parce que je continue à aller voir beaucoup de choses, beaucoup de liberté, puisqu'on arrive avec des attentes, on arrive aussi parfois, c'est un petit peu moins le cas quand on a vu beaucoup de choses, mais avec des sortes de complexes en fait, on se dit tiens c'est pas pour moi, là je comprends pas, alors ça doit être, j'ai pas accès, donc c'est... Et je crois que en tout cas nos rôles en tant qu'institution, je crois que ça fait même partie, c'est plus qu'un rôle, ça fait partie même presque d'une mission, c'est de faire de la pédagogie, c'est de faire de la médiation, et finalement de sensibiliser les gens à la danse pour qu'ils aient l'impression, en tout cas c'est pas l'impression, mais pour qu'ils aient un minimum de code, de culture, de contextualisation de la danse, et pour qu'ils comprennent et qu'ils ne ressortent pas d'un spectacle en disant c'est pas pour moi, j'ai rien compris, puisque la danse contemporaine va très vite, elle use beaucoup de codes, elle est métissée, donc elle va aussi mêler beaucoup de pratiques. Donc si on n'a pas accès à toutes ces cultures-là, et si on n'a pas finalement ces connaissances-là, on peut vite se sentir exclu. Donc, je trouve que c'est bien parce que la danse contemporaine est extrêmement exigeante, et il faut continuer à travailler sur cette exigence. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas qu'elle s'éloigne de certains spectateurs, certaines personnes, et qu'elle devienne finalement une sorte de danse ethnocentrée, c'est-à-dire des artistes qui parlent et qui s'adressent à des artistes ou à des critiques, voilà. Et Laurence Loupe, si on revient à Laurence Loupe, avait extrêmement conscience de ça. Elle avait conscience des privilèges qu'elle avait en tant que critique aussi, d'avoir accès à une certaine forme de connaissance. Et c'était quelqu'un qui continuait finalement à approfondir ses connaissances, mais à ne jamais perdre de vue que tout le monde ne les a pas. Tout le monde n'est pas privilégié de cette manière-là.
Et c'est ces principes, ces lignes directrices qui vous ont conduite à accepter de devenir, d'être à la tête du Centre National Chorégraphique, enfin Chorégraphique National, pardon, dans l'autre
sens. Oui. Enfin, j'ai pas accepté, j'ai même candidaté. Donc en fait, ça a été un choix extrêmement volontaire. Et puis quand j'ai été nommée, j'ai accepté, puisque on peut aussi refuser. On peut jouer le jeu de la candidature et se dire finalement non, c'est pas pour moi, parce que la candidature finalement nous permet aussi de rencontrer les collectivités, de se projeter dans le projet. Et c'est six mois de travail qui peuvent aussi aboutir sur finalement non, quoi. Donc j'ai accepté, voilà. Oui, effectivement, c'est tout ça. Je crois que diriger un lieu, c'est, en tout cas pour moi, c'est aussi transmettre. C'est avoir la capacité, l'opportunité de transmettre toutes ces valeurs-là. Donc c'est une place, encore une fois, privilégiée, mais qui n'est pas une place de pouvoir pour moi, mais plutôt un endroit de transmission. Voilà, oui.
Maud Le Pladec, c'est avec Dorothée Mounianeza que se poursuivra votre nuit. Nous l'écouterons au micro de Romain de Bec de Lièvre dans Par les temps qui courent en 2017. Comment présenter Dorothée Mounianeza, que vous avez déjà évoqué dans la première partie de cette nuit, avec laquelle vous avez travaillé, et comment présenter son travail?
Alors, j'oserais même pas présenter son travail. Je veux pas parler à sa place, mais.
Elle en parle très bien dans.
Voilà, c'est pour ça que je vais la laisser en parler. Mais.
Elle a travaillé d'ailleurs avec Alain Buffard, si je ne m'abuse.
C'est vrai, c'est vrai. Comme quoi tout est lié. C'est comme un rêve, hein. C'est des associations. Ce sont des associations, en fait. C'est personnes que j'ai voulu
emmener
faire
avec
rencontrer,
vous,
voilà. Amener avec moi. Finalement, elles sont liées. C'est pas étonnant, en fait. Voilà. Non, Dorothée Mounianeza, c'est une femme. Une belle femme, une belle artiste que j'admire, qui a le courage, en fait, parce qu'il faut avoir beaucoup de courage, mais aussi beaucoup d'humilité, je crois, pour le faire, qui a le courage et l'humilité de faire se rencontrer dans son travail et au plateau des questions extrêmement intimes, mais aussi politiques. C'est quelqu'un donc qui a fui la guerre au Rwanda, qui en parle dans son travail et qui partage ces questions-là au plateau, et qui sont des sujets fort, difficile, complexe et important, voilà. Et donc c'est pour ça que c'est pour moi très compliqué de parler de son travail, parce que ça lui appartient, c'est-à-dire que Dorothée Mounianeza fait du Dorothée Mounianeza, voilà. Et je, voilà, en tout cas, j'aurais pas envie tant de parler du travail que de la personne que j'ai rencontrée. C'est une des plus belles personnes que j'ai pu rencontrer dans mon parcours. J'ai tout de suite découvert ça quand j'ai découvert ces pièces. J'ai tout de suite eu envie de voir qui était derrière tout ça. Et la chance que j'ai, c'est que voilà, moi, je peux aussi proposer des cadres de partage d'expérience. Je fais des pièces et je peux aussi inviter des gens à travailler avec moi. Et quand Okwi Okpokwasili, qui est la performeuse de Hunted, m'a dit que finalement elle pouvait plus tourner la pièce, j'ai demandé à Dorothée Mounianeza de la remplacer. Et ça a été un honneur pour elle, parce qu'elle est une grande fan de Okwi. Et donc la pièce est en anglais, puisque Okwi est américaine. Donc Dorothée a dû apprendre le texte que j'avais coécrit avec Okwi, le performer sur le plateau en anglais. Et le temps de cette reprise, ça nous a permis de nous rencontrer. Et donc c'est quelqu'un avec qui je n'ai pas retravaillé depuis, mais avec qui je me sens fortement en lien, mais de manière, oui, effectivement, intime et personnelle. Voilà, donc j'avais envie de le dire cette nuit, j'avais envie de lui faire un petit hommage. C'est une des très belles femmes que j'ai pu rencontrer aujourd'hui.
Il semble que dans la danse aujourd'hui, peut-être plus que dans toute autre discipline, il y ait une circulation, un besoin chez les créateurs de collaboration, de rencontre avec les autres. Dorothée Mounianeza dit d'ailleurs dans l'émission que nous entendrons « Je ne veux pas être seule, je veux partager ».
Ben, ça la définit totalement. C'est quelqu'un qui a une générosité assez, je dirais, stupéfiante. Voilà, elle a cette espèce de don naturel. C'est compliqué, hein, mais elle est dans le partage, en fait. Et elle est dans le partage d'expérience, elle est dans le partage de à la fois de ce qu'elle vit, de ce qu'elle est. Et c'est ce qui s'est passé entre nous, donc ça résume très très bien. On a beaucoup beaucoup partagé, sur ces questions de femmes noires, de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de travailler pour elles, avec l'histoire qu'elle trimballe, hein, je veux dire ça comme ça, d'arriver à Londres et puis de travailler maintenant en France. Elle vit à Marseille, elle vit avec un Français, elle a des enfants, enfin voilà, et elle est artiste, enfin. Et c'est intéressant puisque moi j'ai pas la même vie, on n'a pas les mêmes origines, j'ai pas vécu la guerre, la définition, en tout cas la façon dont j'ai vécu la violence à côté de Dorothée Mounianeza, et je veux pas minimiser, mais c'est intéressant en fait. On a beaucoup 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 partagé, beaucoup 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 discuté, et on a peu travaillé ensemble. Mais c'est quelqu'un qui parle de manière très très sensible et de manière très claire de tout ça. Et si vous allez voir ses pièces, ces pièces, c'est plus que des pièces, c'est effectivement des endroits, encore une fois, de transmission. Le projet que j'ai fait avec elle a failli s'appeler Witch Transmission, et je pense que c'est Dorothée fait partie de ces sorcières qui transmettent très bien. Voilà.
Ce sera avec les femmes compositrices du 19e siècle que se terminera votre programme d'archives. Les femmes compositrices, un sujet sur lequel vous travaillez, je crois. Pourquoi avoir choisi de travailler sur ce sujet, Maud Le Pladec ?
Je crois que ça fait sens, non ? Après tout ce qu'on vient de se dire. Pourquoi ? Oui, parce que on l'était déjà, mais on l'est encore plus après le phénomène MeToo, d'en donner la parole aux femmes. Où je crois beaucoup les femmes, on se permet finalement de prendre la parole. Moi, encore une fois, je peux, à travers des pièces, donner une voix à des sujets, donner une voix à des femmes. Et j'ai décidé de le faire pour des compositrices femmes d'époque passée, d'époque actuelle, enfin de notre époque, pardon. Aussi parce que ce matrimoine-là est peu valorisé, et je travaille avec la musique contemporaine et la musique plutôt contemporaine et parfois classique dans tous mes projets. J'ai fait découvrir Fausto Romitelli à un public de danse, Michael Gordon à un public de danse, Julia Wolf à un public de danse, et finalement on va plutôt parler de Francesco Filidei, pardon, etc. Et la seule femme compositrice autour de laquelle j'ai travaillé, c'est Julia Wolf. Donc en fait, même moi, j'ai pas été très paritaire, quoi. Donc d'un seul coup, je me suis dit, je vais rattraper le coup et je vais rattraper le coche, et il va y avoir que des femmes qui ont soit écrit de la danse, écrit de la musique, pardon,
soit joué
de la musique, soit chanté. Et ça va être le sujet de cette pièce qui va voir le jour en 2021.
Et comment se fait pour vous le choix des musiques de vos spectacles ? Est-ce que la musique est souvent un point de départ d'une idée, du désir d'un spectacle ?
Oui, c'est complètement le point de départ. Et pour ce prochain projet, je vais collaborer avec l'ensemble Ictus, avec lequel j'ai collaboré sur trois projets déjà. Mais finalement, on n'a pas travaillé ensemble depuis très longtemps, donc on avait très envie de partager une nouvelle aventure. Et c'est intéressant puisque je travaille principalement avec des hommes sur ces sujets-là. Et l'ensemble Ictus embrasse fortement cette question-là de la parité, du féminisme, dans leur façon de faire, dans leur façon de collaborer, dans leur façon de représenter aussi les compositrices ou musiciennes femmes, que ça soit au sein de l'ensemble ou que ça soit en choisissant telle ou telle pièce de telle compositrice, voilà. Donc voilà, et comment on fait concrètement? Ben, on écoute beaucoup de choses. Là, on travaille actuellement sur... la création musicale pour cette prochaine pièce, est-ce que ça va être une galerie de portraits de femmes compositrices et chanteuses ou est-ce qu'on va s'arrêter sur une d'entre elles? Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, et je vais pas révéler ça au jour d'aujourd'hui. En plus, on est dans vraiment au tout début de la recherche. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que pour l'instant, on a écouté plus de 30 compositrices. Moi, c'est génial parce que du coup, c'est un espèce de puits sans fond de connaissances musicales. Et ça, c'est tout le jeu de la création. Il va bien un moment falloir que cette recherche s'arrête. Mais ça me permet aussi de découvrir tout un pan de cette culture musicale que je ne connaissais pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui produisent, mais qui ne sont pas reconnues, auxquelles on n'a pas accès. Donc... si c'est ma petite contribution, si on peut le faire, on va le faire. On va les mettre au centre d'un projet de danse qui, j'espère, sera très visible. Et donc, du coup, on va les publics vont les rencontrer. Voilà.
Souvent, dans vos spectacles, la musique fait partie intégrante de la mise en scène ou de la chorégraphie par la présence des musiciens sur scène ou même d'un DJ. Qu'est-ce que la présence de la source de la musique, la présence des instruments, des corps des musiciens apporte à la danse?
Bah, regardez un musicien jouer et vous aurez la réponse, hein. C'est extrêmement physique. Donc moi il y a déjà fondamentalement ça, c'est-à-dire que c'est une façon d'incarner la musique. La musique est jouée en live, donc c'est du live, c'est du spectacle vivant pour moi. Basiquement, c'était ça. Et la deuxième chose que ça me permettait, c'était aussi de traiter de cette relation entre danse et musique de manière très concrète. C'est-à-dire que mélange des pratiques dans mes pièces, les musiciens dansent et les danseurs jouent des instruments. C'est aussi partager un processus de création de manière très concrète avec les musiciens. Ils sont impliqués dans des modalités de travail qui sont très éloignées des leurs. Et inversement, les danseurs aussi voient comment ça se fait de composer, de jouer une œuvre. Et après, de cette rencontre-là au plateau, découle tout un tas, en fait, à la fois de questions et de réponses auxquelles il faut apporter à ces questions qui me semblent importantes dans le travail aujourd'hui. Voilà, pour répondre un peu synthétiquement.
Maud Le Pladec, nous nous retrouverons dans un peu plus de 2h30, juste avant la fin de votre nuit rêvée. Après avoir écouté Meg Stuart, chorégraphe dans Studio Danse en 2000, Alain Buffard et Laurence Loup pour Dispositif 3-1 dans Studio Danse toujours de Laurent Goumard et Stéphane Bouquet en 2001, Dorothée Mounianeza dans Par les temps qui courent au micro de Romain de Bec de Lièvre en 2017, et enfin Reconnaissance et statut des femmes compositrices au 19e siècle par Anna Sigalevitch dans Continent Musique d'été en 2015. Maud Le Pladec, votre nuit rêvée se poursuit sur France Culture.